Ce balado est présenté par Nespresso Professionnel. On dit souvent que lorsque les États-Unis toussent, les Québécois attrapent le rhume. Une drôle d'analogie en pleine pandémie, mais économiquement, c'est vrai. Quand la relation avec les Américains va bien, notre économie va mieux. Mais est-ce que ça va si bien que ça, entre nous et Joe Biden? Je m'appelle Laurent Therrien, bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. Une fois par mois, Statistique Canada publie les données sur les exportations et les importations. Une publication qui est assez suivie parce que c'est un indicateur important de la santé de notre économie. Eh bien, surprise, le rapport de la semaine dernière a montré une balance commerciale du Canada positive en janvier. En gros, on a exporté plus de biens et de services qu'on en a importés. C'est la première fois que ça arrive en près de 2 ans et on s'attendait plutôt à un déficit commercial d'1,4 milliard de dollars. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit remercier le nouveau président Biden? D'ailleurs, comment ça va avec les États-Unis depuis que le nouveau président s'est installé dans le bureau ovale? Cette semaine, on parle politique, économie et dépendance envers les États-Unis. Véronique Proulx, bonjour, bienvenue à Pour votre info.
Oui, bonjour Laurent.
Véronique Proulx, c'est la présidente et directrice générale de Manufacturiers et Exportateurs du Québec. Elle représente donc les intérêts de milliers d'entreprises manufacturières et exportatrices. C'est la première femme à la tête de cette institution qui a plus de 100 ans d'histoire. Véronique, c'est une spécialiste de l'exportation. Elle a œuvré pendant près de 15 ans comme directrice des affaires internationales de Laval Technopole et pendant 4 ans comme présidente de Commerce international Québec. Elle possède un MBA de l'Université Paris-Dauphine et de l'UQAM. On va commencer par un petit retour en arrière, si tu veux bien. J'aimerais qu'on parle des années Trump. Ça va avoir été quoi l'impact de Donald Trump sur l'économie du Québec, finalement? Est-ce qu'on est capable déjà de faire un bilan de ces années-là ensemble?
Oui, tout à fait. Bien, je dirais que les 4 dernières années sous l'administration Trump ont été des années où il y a eu beaucoup d'imprévisibilité, beaucoup d'incertitudes. Mm-hmm. Et ça a été une administration qui a été très protectionniste, alors que typiquement, les Républicains sont plutôt libre-échangistes. Ouais. Alors, on l'a vu avec la renégociation de l'ALENA, les tarifs sur l'aluminium et l'acier qui ont été imposés, qui étaient absolument invraisemblables. Et il y a eu plusieurs autres crises. Alors, c'était très, très difficile pour les manufacturiers, les exportateurs de planifier, de prévoir leur plan d'investissement, de prévoir leur plan de développement aux États-Unis, parce qu'il y avait toujours des soubresauts, des changements qui se faisaient. Alors, je pense que l'incertitude, l'imprévisibilité, c'est certainement deux mots-clés qui décrivent les 4 dernières années sous cette administration-là.
Preserve, protect and defend.
Preserve, protect and defend.
The Constitution of the United States.
The Constitution of the United States.
So help you God.
So help me God.
Congratulations, Mr. President.
Et là, c'est derrière nous. Joe Biden est président des États-Unis depuis la mi-janvier ou à peu près officiellement. Les choses commencent déjà à changer, en tout cas parce que je voyais les chiffres de janvier qui disent que la balance commerciale du Canada est positive. En gros, on exporte plus qu'on a importé au mois de janvier. Qu'est-ce qui est en train de se passer, selon toi?
Généralement, lorsqu'on voit un changement aussi rapide et radical, il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte. Mm-hmm. Mais je pense que la vigueur de l'économie américaine est certainement l'un des facteurs. Et d'ailleurs, sous l'administration Trump, l'économie américaine roulait quand même à plein régime, et c'est encore le cas aujourd'hui. Lorsque le dollar canadien est plus faible, ben nécessairement, il y a certains secteurs qui sont avantagés puis qui vont influencer cette balance commerciale-là. Mais il faut se rappeler que 70% de nos exportations vont à destination des États-Unis. Alors, encore une fois, quand le marché américain va bien, ben ça a un impact positif sur notre économie puis sur notre balance commerciale également.
Mais Joe Biden peut nous réserver des surprises aussi. Tu le disais, les Républicains sont davantage libre-échangistes. Joe Biden est démocrate. Il supporte ardemment le Buy America Act. Donc, il encourage les Américains à acheter davantage aux États-Unis ou en tout cas d'abord aux États-Unis avant d'acheter des produits qui viennent de l'extérieur. Est-ce que Joe Biden est aussi protectionniste que Donald Trump l'était finalement?
Moi, je pense que l'administration Biden va certainement être aussi, sinon plus, protectionniste. Les démocrates ont toujours été très protectionnistes. Et on pouvait s'y attendre tout le long de la campagne. Il avait parlé de son plan pour le Buy American, Buy American Act, le Buy America, qui vise finalement à ce qu'il souhaite, c'est resserrer le contrôle sur l'octroi de contrats publics, donc de favoriser davantage les entreprises américaines dans le cadre de l'octroi de contrats publics. C'est plus protectionniste, mais c'est plus prévisible, parce que le Buy America, Buy America, c'est une législation, il y a un décret, c'est prévisible, c'est encadré, on sait à quoi s'attendre. Alors, des entreprises qui souhaitent, qui ne pourront plus avoir accès au marché américain parce qu'elles sont établies ici, elles savent ce qu'elles ont à faire. Elles vont aller s'établir aux États-Unis pour avoir accès au contrat. Et pour les autres, ben en fait, au moins, elles savent que dans certains secteurs, certains segments, elles ne seront pas en mesure d'exporter. Donc, il y a de la prévisibilité. Ça ne veut pas dire que ça n'a pas moins d'impact sur nos échanges commerciaux toutefois.
Mm-hmm. Et là, pour essayer de contrer ça, du moins, ou en tout cas de voir un peu plus large, les Américains diraient « grow the pie », il y a une idée canadienne qui est sortie, c'est « non, non, on ne va pas créer le « buy America », on devrait créer le « buy North America ». Donc, d'intégrer le Canada, si tu veux, dans cette notion qu'on doit s'aider les uns les autres et d'abord favoriser nos propres achats locaux. C'est-tu une lubie canadienne, cette histoire-là? Est-ce que tu penses que ça a des chances de passer avec nos amis américains?
Ben, je pense que c'est une bonne idée, c'est une belle initiative. En fait, le Buy North America, ça permettrait de favoriser les échanges entre le Canada et les États-Unis, de consolider nos liens. Ceci étant dit, je serais surprise de voir que les Américains retiennent cette alternative. Mm-hmm. Moi, je pense qu'on va plutôt se retrouver avec un scénario où le Canada va négocier certaines exemptions pour des produits ou des secteurs d'activité qui sont névralgiques pour les États-Unis et pour lesquels l'administration Biden va accepter de nous accorder ces exemptions-là pour les contrats publics.
J'ai une question un peu philosophique pour toi, si tu veux, mais... Oui. C'est notre dépendance, notre relation fortement dépendante envers les Américains, surtout dans l'industrie manufacturière au Québec. Est-ce qu'il y a moyen de croître sans les États-Unis?
Moi, je pense qu'on a besoin des États-Unis. Je le mentionnais, 70 % de nos exportations sont à destination des États-Unis. Je pense que la façon qu'on doit regarder la relation avec les États-Unis puis la façon qu'on doit travailler nos relations diplomatiques, c'est qu'on doit chercher à consolider le marché nord-américain. On doit chercher à augmenter notre compétitivité. Le message, c'est que la compétition n'est pas entre nous, est avec l'Asie, est avec d'autres régions dans le monde. Alors, il faut travailler à consolider nos relations. Ceci étant dit, c'est important de diversifier ces marchés d'exportation. Puis on l'a vu avec les quatre dernières années, je reviens, la renégociation de l'ALENA, les tarifs sur l'acier et l'aluminium, ce sont toutes des choses qui pourraient se reproduire dans le futur. C'est primordial que les entreprises québécoises cherchent à diversifier leurs marchés, cherchent à diversifier leurs risques.
Vers la Chine, notamment?
Oui, vers la Chine, mais la Chine, c'est pas à la portée de tous. Alors, on a des moyens, des grandes entreprises qui ont la capacité de diversifier leur marché en Chine, mais pour certaines entreprises, je pense à celles qui ont des produits dans le secteur de la construction, des produits qui sont plus lourds, souvent, elles doivent rester dans un rayon de 500 km pour demeurer compétitives. Donc, elles vont pas aller beaucoup plus loin que l'État de New York, à moins de s'établir ailleurs, d'ouvrir une franchise, d'ouvrir une nouvelle usine ou un nouveau bureau, de s'implanter dans le fond à l'étranger. Alors, c'est pourquoi je dis, pour la plupart, le marché américain demeure le marché prioritaire, mais effectivement, pour des entreprises de plus grande taille qui ont des visées internationales, pour des entreprises qui sont capables de faire des partenariats ou des joint ventures, c'est clair que la Chine peut être un marché intéressant dans certains secteurs.
Notre plan d'action pour la relance des exportations. Concrètement, on injecte 500 millions de dollars sur 5 ans pour réaliser 10 actions stratégiques.
Alors, Véronique, le gouvernement a déposé son plan d'action pour la relance des exportations, le gouvernement québécois, doté d'une enveloppe d'à peu près 500 millions de dollars sur 5 ans. Est-ce que, d'abord, on peut te demander la tâche ingrate de le résumer, ce plan-là, pour nous? Qu'est-ce qu'on y retrouve?
Si je le résume à un très haut niveau, là, je dirais que, d'une part, le gouvernement provincial a voulu mieux cibler ses interventions, donc accompagner les entreprises qui ont la capacité, la réelle capacité puis la volonté de développer puis de diversifier leur marché d'exportation. L'exportation, c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas tout le monde qui a la capacité de commencer à exporter en Chine, en France. Mm-hmm. Et les ressources du gouvernement sont limitées. Donc, ils ont voulu, d'une part, bonifier l'aide financière pour avoir plus d'impact dans le support financier qu'ils vont offrir, mais aussi mieux cibler les entreprises qui sont réellement prêtes à aller à l'international et diversifier leurs marchés internationaux. En parallèle, je dirais qu'ils délaissent pas les nouveaux exportateurs et les plus petites. Il y a un support qui est offert via les différentes organisations, dont les organismes régionaux de promotion des exportations. Dans le fond, là, plus d'argent, plus de support et plus d'impact pour faire bouger l'aiguille d'exportation, l'aiguille de la diversification des marchés et l'aiguille d'exportation aussi.
J'aimerais qu'on parle des forces et des faiblesses de ce plan-là. Je suis convaincu que tu l'as étudié plus que personne. Qu'est-ce que tu aurais fait différemment et qu'est-ce que tu applaudis dans ce plan-là?
Bien, honnêtement, là, sur les orientations qui sont prises, moi, je suis très favorable, là, je réitère. J'ai œuvré longtemps dans l'accompagnement de PME exportatrices. Je pense pas que l'exportation, c'est pour tout le monde. Je pense pas que la Chine, c'est pour tout le monde. Je pense qu'il faut être capable de cibler les entreprises qui ont la capacité puis la volonté puis d'investir dans cela. Dans le fond, il faut arrêter de saupoudrer l'aide un peu partout. Il faut être plus ciblé parce que les ressources du gouvernement sont limitées. Alors, pour moi, ça fait plein de sens. Puis comme je le mentionnais, ils ne délaissent pas nécessairement les plus petites ou celles qui commencent. C'est juste que l'aide est attribuée différemment. Mm-hmm. Après ça, la clé du succès, ça va être beaucoup... Tout ça, c'est très théorique. Après ça, concrètement, comment tu l'opérationnalises? Et est-ce que tu as les ressources qui vont faire l'accompagnement des entreprises? Est-ce qu'ils ont la bonne approche? Est-ce que ce sont des gens qui sont orientés sur les résultats? Est-ce que ce sont des gens qui ont la bonne culture d'affaires pour transiger avec les entrepreneurs, les inciter et les encourager à l'international et surtout leur donner accès au bon carnet de contact? Ce qui va faire la différence, c'est le réseau de contacts qu'ils vont avoir à nous offrir. Est-ce qu'ils ont les bons distributeurs? Est-ce qu'ils ont les bons partenaires à nous faire rencontrer? Puis c'est ça qui va nous permettre éventuellement de générer des nouvelles ventes ou de développer des nouveaux marchés. Mais cette approche d'affaires-là, c'est pas clair qu'elle est là présentement parce que c'est nouveau, c'est une nouvelle orientation qu'ils prennent. C'est pourquoi je dis le succès va vraiment dépendre de l'approche qu'ils vont prendre et leur capacité à l'opérationnaliser.
Donc, du carnet de contacts des gens chez Investissement Québec notamment.
Bien, surtout, en fait, de l'autre côté, au niveau des délégations du Québec à l'étranger. Ah. Parce qu'Investissement Québec va être ici pour guider, accompagner les entreprises, le financement également. Mais ultimement, quand l'entreprise est prête puis qu'elle est qualifiée, puis on le sait qu'ils sont la présente, par exemple, à un partenaire chinois, bien, elle a les ressources nécessaires, elle a les reins solides, puis elle va être capable d'aller de l'avant. Là, il faut s'assurer que de l'autre côté, on lui présente les bonnes personnes, le bon réseau de distribution.
Mm-hmm. C'est complexe exporter, clairement, et c'est une part importante de notre économie. Le problème, ce n'est pas notre dépendance, Véronique, notre vulnérabilité envers les exportations. Pourquoi est-ce qu'on cherche à les augmenter, les exportations, plutôt que de miser sur de la croissance à l'intérieur de notre province ou à l'intérieur du pays?
Ben en fait, tu sais, dans un premier temps, il faut se rappeler qu'on a on est 8 millions de consommateurs au Québec, donc le marché est quand même petit. Donc rapidement, les entreprises qui veulent prendre la croissance puis qui veulent être capables de compétitionner avec des joueurs internationaux doivent exporter, même s'implanter à l'étranger, s'internationaliser pour être plus fort. Avant, on exportait. La concurrence internationale n'est pas nécessairement frappée à nos portes, mais avec tous les accords de libre-échange que l'on a, avec l'arrivée de la Chine, etc., ça fait en sorte que même si tu exportes très peu, les concurrents vont venir cogner à ta porte, ils vont venir te gruger des parts de marché ici localement. Donc, tu n'as pas le choix de le retourner vers l'international pour maintenir un certain niveau ou même pour croître. Alors, tu sais, je pense que l'un ne va pas sans l'autre. Je pense qu'il y a possibilité, c'est une très bonne question, là, il y a possibilité de faire croître nos entreprises ici, notamment en leur laissant plus de place dans les contrats publics. Le gouvernement du Québec est un des plus grands donneurs d'ouvrages au Québec. Présentement, lorsqu'on veut faire affaire avec le gouvernement, lorsqu'on va soumissionner sur un contrat, c'est toujours le critère du plus bas soumissionnaire qui est utilisé. Alors, parfois, on va perdre des contrats aux dépens d'entreprises chinoises, des Philippines, qui n'ont même pas de pied à terre ici, qui ne fabriquent pas. Donc, je pense que si on veut aider les entreprises ici à croître, notamment celles qui font affaire avec qui peuvent faire affaire avec le gouvernement, il faut leur laisser plus de place, il faut mettre en place des critères qui vont faire une discrimination positive envers les entreprises ici. Et de l'autre côté, bien, il faut continuer à pousser nos moyennes et nos grandes entreprises à l'international parce qu'elles vont aller chercher des contrats à l'étranger et vont ensuite se retourner vers leur chaîne d'approvisionnement locale, qui sont des PME manufacturières partout à travers le Québec. Et ça, bien sûr, bien, ça engendre énormément de richesses.
Mm-hmm. Est-ce qu'on va voir de plus en plus ou de moins en moins d'industries manufacturières, selon toi, s'implanter ici?
Je pense que la crise de la COVID, la dernière année, nous a démontré à quel point c'est important d'avoir un secteur manufacturier fort.
Ouais.
Et c'est vrai au Québec, puis c'est vrai au Canada aussi. On a vu à quel point on devait avoir une certaine autonomie dans certains secteurs d'activité névralgique. Je pense à la transformation agroalimentaire, je pense aux vaccins, je pense aux équipements de protection individuelle. Ça l'a vraiment éveillé ça auprès du gouvernement de réaliser à quel point c'était important. Le secteur manufacturier, on l'a souvent pris pour acquis. Et les secteurs plus traditionnels, on y accordait plus ou moins d'importance. on regardait vers le futur, mais sans tenir compte de leur rapport ou de comment ils pouvaient y contribuer. Alors, je pense que la dernière année a vraiment changé cette perspective-là et a changé aussi la façon dont le gouvernement, tant du Québec que du Canada, veulent soutenir et supporter l'industrie manufacturière. Alors, moi, je suis quand même assez optimiste quant à l'avenir du secteur manufacturier. Ceci étant dit, je pense que le secteur doit continuer et même augmenter de façon significative les investissements qu'ils font dans l'intégration de nouvelles technologies, parce qu'une entreprise qui n'investit pas et qui a un retard de productivité important, comme c'est le cas de beaucoup de PME au Québec, bien ça peut mettre en péril plusieurs entreprises. Mais par contre, il y a vraiment un momentum, un timing, si elles choisissent d'investir, moi, je pense qu'il y a un très bel avenir pour le secteur manufacturier au Québec.
Tu as raison, c'est qu'on perçoit le secteur manufacturier comme le secteur manufacturier d'il y a 30, 40, 50 ans, avec beaucoup de textiles, notamment à Montréal. Alors que on vit plus dans ce monde-là du tout. Le secteur manufacturier a changé de visage complètement, là.
Tout à fait. Puis on le voit quand on visite certaines entreprises, la transformation numérique, l'automatisation, la robotisation, ça a complètement changé le visage les usines et la façon de fonctionner. Et ça change aussi les emplois, ça change les façons de travailler. Donc c'est vraiment un secteur qui est en pleine transformation. Et c'est un secteur qui va pouvoir contribuer de façon significative à notre quotidien à tous, mais surtout à l'économie du Québec.
Véronique, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Au plaisir.
En terminant, voici ce que vous devez savoir. Ce que vous devez savoir est présenté en collaboration avec InfoBref. InfoBref, c'est un nouveau média d'information destiné aux professionnels et aux gens d'affaires qui vous offre l'essentiel des nouvelles affaires, politiques et techno sous la forme d'infolettres qui sont gratuites. Je vous suggère de vous abonner en allant à infobref.com. On vous en parlait la semaine dernière, le secteur de la technologie devrait chercher à créer des titans. Eh bien, Innovia Capital vient de lancer son plus gros fonds de capital de risque depuis sa création en 2007 pour un montant de 450 millions de dollars américains. L'objectif, trouver 10 à 12 entreprises technologiques en croissance pour les amener au plus haut niveau. La recherche de ces entreprises serait déjà commencée. Bloomberg souligne que l'achat de Shaw Communications par Rogers, ce n'est pas qu'un coup de tonnerre dans l'industrie de la télécommunication au Canada, c'est aussi une alliance entre deux des plus grands clans d'affaires au pays. L'article révèle qu'en fait, plusieurs industries au pays sont dominées par de grandes familles. Une dynamique qui avantage peut-être la planification à long terme, selon l'analyse, mais qui peut aussi générer une certaine stagnation. Voilà, c'est tout pour nous cette semaine. Merci à Charles Prémont à la recherche et à la coordination et à Laurence et Valérie chez Nespresso. Je m'appelle Laurent Therrien. Si vous saviez à quel point c'est un plaisir de vous retrouver. À la semaine prochaine.